Donc, je vais essayer de décrire le processus méditatif en prenant dans le fond deux expressions qu'utilise Mahasi Sayadaw. Je vais bien prendre ce maître birman parce qu'il est extrêmement clair dans son articulation. Ça ne veut pas dire que c'est la seule source ou la seule source fiable, mais en général, il exprime les choses de manière assez simple et assez claire. Mais lorsque nous abordons ce processus méditatif, dans le fond, nous décrivons quelque chose d'immensément intime, quelque chose qui est tellement proche dans notre expérience, ou qui est au cœur de ce que nous sommes. C'est pour ceci que quelquefois les mots font défaut ou les mots semblent, dans le fond, tourner autour du sujet sans arriver à exprimer vraiment de quoi il s'agit. Et ce n'est pas une faute ici des mots, on pourrait dire, mais c'est simplement parce que nous essayons d'aborder quelque chose qui est tellement proche de nous-mêmes, qui vient justement avant la formulation. Néanmoins, nous utilisons des mots pour communiquer, et aussi ça ne veut pas dire que les mots sont inutiles, mais à un certain moment donné, ils doivent être dépassés. Donc là, l'enjeu, si vous voulez, ou le défi assez extraordinaire, c'est d'essayer d'évoquer tous ensemble, hein, quelque chose qui est vraiment au plus profond de notre expérience de la vie. Comment essayer d'aborder ceci pour qu'on puisse peut-être s'ouvrir à cette manière d'être dans la vie? Une manière qui, quand même, d'une manière générale, est inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané pour la plupart d'entre nous. Donc d'essayer d'ouvrir quelque chose à quelque chose de nouveau. Donc voilà ces deux expressions de Mahasi Sayadaw qui vont d'ailleurs avec ce qu'on a dit jusque-là, mais d'une manière assez résumée de décrire tout ce que nous avons vu. Lorsque Mahasi Sayadaw pose la question, sur quoi méditons-nous? Sur quoi méditons-nous? Alors, une réponse toute simple, c'est sur ce qui surgit dans l'instant. Sur quoi méditons-nous? Sur ce qui surgit dans l'instant, qu'il va s'agir de définir. Et pourquoi méditer? Afin de ne pas saisir. Pour dire que là, on a vraiment la description de tout le processus. Nous méditons sur ce qui surgit dans l'instant. Et pourquoi? Afin de ne pas saisir. Donc le premier élément, sur quoi méditons-nous? Donc sur ce qui surgit dans l'instant. C'est déjà un élément important, c'est ce qui surgit dans l'instant. Pas ce qui s'est passé hier ou il y a 10 ans, pas sur ce qui se passera demain ou après-demain, mais sur ce qui surgit dans l'instant. Donc ça élimine évidemment beaucoup d'éléments. Il y a simplement ce qui est là en cet instant. Voilà sur quoi nous méditons. Pas sur le reste. On verra qu'évidemment, ce qui surgit dans l'instant est aussi d'une immense richesse. Il n'y a pas juste une chose. Il y a tout un éventail de possibilités. Et en général, dans les sutras, c'est décrit dans ces quatre sphères dont Monica a parlé l'autre jour, les fondements de l'attention, que je rappelle juste ici. Donc, qu'est-ce qui peut surgir dans l'instant? Comment notre vie peut se manifester? Qu'est-ce qui fait que nous savons que nous sommes en vie? Quand on dort profondément, il y a un peu moins de conscience de vivre. Mais qu'est-ce qui fait dans notre vie, dans le fond, qu'est-ce qui fait que nous sommes en vie? Eh bien, c'est parce qu'il y a des expériences qui surgissent. Il y a quelque chose qui se passe. S'il ne se passait rien et que je ne pouvais même pas être conscient qu'il ne se passe rien, évidemment, je ne pourrais même pas dire que je suis en vie. Donc là, il se passe quelque chose dans le fait d'une expérience. Eh bien, ces expériences-là, ça peut être les expériences sensibles. Voilà. Tout ce qui dépend des organes sensoriels. Voilà. Maintenant, vous entendez quelque chose. Fait que vous entendez, la vie se manifeste en cet instant pour vous par cette expérience auditive et expérience visuelle aussi. Il y a, voilà, si vous avez les yeux ouverts, même si vous écrivez des notes, donc il y a là quelque chose qui est la manière dont la vie se présente pour vous à travers ces expériences sensorielles. Donc il peut y avoir la vision, l'audition, qui sont évidemment parmi les expériences les plus fréquentes, et puis aussi la sensation corporelle, les sensations qui fait qu'on sent l'existence du corps dans les différentes parties du corps. Voilà donc les trois sphères dans le fond les plus courantes, et puis il y a l'odorat aussi, et puis il y a évidemment le goût. Donc notre vie se manifeste sous ces aspects-là, se manifeste sous l'aspect d'une expérience visuelle, auditive, tactile, olfactive et gustative. Ça a l'air restreint. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus quand même. Il y a moi, il y a tout ça, ben voilà, là, il y a déjà juste ça. Dans l'instant, il y a juste cet aspect-là. Et puis, évidemment, il y a aussi ce dont on a parlé l'autre jour, le fait que ces expériences me touchent. C'est pas juste la vision, l'audition, il y a quelque chose de particulier, c'est que ces choses me touchent. Elle me touche parce que tout d'un coup c'est éprouvé comme agréable. Je vois quelque chose, tiens, c'est agréable. Ou bien c'est désagréable. C'est pas la pensée qui a besoin de dire c'est agréable, désagréable. C'est comme ça que je l'éprouve. Comme étant agréable ou désagréable ou neutre. Donc c'est la vie me touche. Et ça, c'est une immense richesse que la vie nous touche comme. Affectivement, comme éprouver ceci comme étant agréable ou désagréable, ou neutre. Ça, c'est un deuxième aspect des expériences. Et puis, il y a le troisième domaine, genre d'expérience. Le texte ici, le Satipatthana Sutra, parle simplement de la pleine conscience à la conscience, cette conscience des phénomènes de conscience. Le texte. Est assez bref dans le fond. On verra quand il parle des phénomènes de conscience, il parle surtout du désir, de l'aversion, etc., de toutes ces qualités de la conscience, désir, aversion. Donc plutôt de la qualité de la conscience, de ce qui habite la conscience, plutôt que dans le fond des pensées, de l'imaginaire, il ne mentionne pas comme objet de la méditation, les pensées, l'imaginaire, mais plutôt donc désir, aversion, et puis aussi agitation. Donc dans l'agitation, on peut imaginer que ça inclut justement toute la richesse des pensées, des souvenirs, de l'anticipation. Donc tous ces phénomènes-là sont les lieux de la méditation. Sur quoi est-ce que nous méditons? Sur ceci, sur le désir, la colère, etc. Et dans le quatrième sphère d'ailleurs, il va revenir sur ces phénomènes-là. On les inclut, on parle des cinq obstacles, des facteurs d'éveil et autres. On parle aussi d'éléments positifs tels que la joie, évidemment, la joie, l'attention, la concentration. Donc, toutes ces expériences-là, ces vécus, ils sont le lieu de la méditation quand ils surgissent dans l'instant. Quand ils surgissent dans l'instant. Et pour tous ces phénomènes, il s'agit d'avoir la même attitude, c'est de se disposer à les éprouver pleinement. On peut voir quand il parle ici du désir, de la colère, de la haine et autres, eh bien, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand un méditant, une méditante a l'esprit troublé par le désir, il sait. Quand il a l'esprit troublé par l'aversion, il sait, elle sait. Ce qu'il dit là, c'est extrêmement bref. Il ne dit pas appeler les pompiers, par exemple. Non, il dit simplement, voilà, il sait. Et ça, c'est évidemment une sphère immensément riche parce que ça veut dire que un des aspects de la pratique, c'est aussi de nous rendre compte quand l'esprit est affecté par ces choses-là. On pourrait très bien méditer, j'ai déjà évoqué ceci à plusieurs reprises, on pourrait méditer et puis avoir de nombreuses pensées, et puis dire voilà, je reviens à la respiration, au corps, pour ne pas être dans la pensée. Et puis, tout d'un coup, la pensée revient, donc je reviens à la respiration, jusqu'à ce que je me rende compte finalement que derrière ces pensées, il y a de la frustration. Donc on peut bien voir là que dans le troisième sphère, il s'agit de se rendre compte quand l'esprit est affecté par. Là, je pourrais, de manière un peu simpliste, vouloir être très attentif à ses pensées et à revenir à la respiration. Il y a les pensées, je reviens à la respiration. Il y a les souvenirs, je reviens à la respiration. Mais là, on manque quelque chose. On manque quelque chose qui est là en cet instant, qui peut être l'aversion, la tristesse et autres. Donc il s'agit bien d'en prendre conscience, parce que dans le fond, c'est ce qui anime le flot de pensée. Et simplement de croire qu'il y a un flot de pensée qui me déborde, qui vient m'embêter, et j'aimerais bien qu'il ne surgisse pas, ça cache le fait que ce qui motive ce flot de pensée dans ce cas-là, c'était la frustration. Donc c'est un des aspects importants, ce Cittanupassana, comme on l'appelle, donc cette conscience de, ou cette mindfulness, ou cette présence au fait de conscience, c'est important parce qu'évidemment, nous sommes plus conditionnés, dérangés par les émotions, désir, colère, haine, attachement et autres, plus que par les sensations, plus que par les sons. Bon, on peut s'irriter quelquefois par des sons, mais enfin, c'est quand même pas les principaux problèmes de l'existence. À moins qu'on habite sur une grande avenue qui a toujours du bruit, mais là, ma foi, il faudra bien déménager. C'est une solution assez simple, quoi. Mais donc là, ce qui nous conditionne, ce qui nous limite dans la vie, c'est bien le fait de ne pas savoir comment, d'abord prendre conscience de ces émotions qui viennent nous habiter, qui nous poussent à réfléchir d'une certaine manière. On voit bien, on ne pourrait pas avoir deux ou trois personnes qui discutent et une parle de ceci, c'est bien, etc. L'autre, non, c'est pas bien. Le Covid nous a donné vraiment l'opportunité d'explorer ça immensément. Donc, et finalement, eh bien, la motivation derrière, c'est pas tellement une sorte de volonté rationnelle, c'est quand même une sorte d'émotion, de crainte, d'irritation, de frustration, etc. C'est ça qui va alimenter une certaine manière de penser. Donc lorsqu'on commence à prendre conscience de l'état d'esprit, à ce moment-là, il y a un espace pour intégrer ceci et puis pouvoir s'en libérer. Donc prendre conscience, le troisième des... Troisième sphère, si vous voulez, une sphère très importante, et dans la quatrième sphère d'ailleurs, qui s'appelle les phénomènes, les dharmas, on revient sur ces aspects-là, en ajoutant les facteurs d'éveil, par exemple, qui sont plus positifs, avec la joie, la concentration, la présence attentive, etc. Mais il en va de même pour la somnolence, le doute, la fatigue. Ceux-ci sont aussi les lieux de la méditation. Dans la mesure où ils sont là dans l'instant. Mais quand on dit là dans l'instant, ce que Mahasi mentionne, ça marque aussi une attitude particulière. C'est-à-dire que si je fais l'expérience de la somnolence ou de la fatigue, eh bien, cette somnolence et cette fatigue, elle est le lieu de la méditation, mais seulement celle qui surgit dans l'instant. Pas celle de toute l'assise, ma somnolence de toute l'assise, ma fatigue de toute l'assise, je suis fatigué, etc. Non, c'est en cet instant. En cet instant, il y a une expérience de somnolence. En cet instant, il y a une expérience de fatigue ou de tristesse et autres. Donc, c'est vraiment remettre ceci dans l'instant, parce que quand on le met, c'est pour toute l'assise et autres, ou toute la journée, à ce moment-là, on a quitté l'expérience elle-même pour être dans une synthèse, pour être dans une généralité. La fatigue de toute la journée, c'est impossible d'en faire l'expérience. On n'a que cet instant pour faire l'expérience. La somnolence de toute l'assise, c'est pas possible. On n'a que cet instant, celui-ci, 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 ou cet instant à chaque fois. Donc, ceci aussi marque une dimension très précise dans la pratique et qui permet beaucoup d'éclairer comment, ou l'attitude juste et comment on se perd. Même chose pour la douleur, ma douleur, etc. Mais le lieu de la méditation, cette douleur, cette sensation intense, mais c'est dans cet instant-là, à chaque instant. Je vais revenir un petit peu sur cet aspect-là. Donc ça concernait sur quoi méditer, donc sur tout ce qui surgit dans l'instant, la qualité de l'esprit, etc., les perceptions. À nouveau, les pensées et les souvenirs et autres en tant que manifestation de l'agitation ou expression, par exemple, d'une frustration. Donc, c'était sur quoi méditer. Maintenant, pourquoi méditer? Ainsi l'exprime, donc, afin de ne pas saisir. Si sur quoi méditer est plus simple, afin de ne pas saisir, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, afin de ne pas saisir? Et si c'est vraiment l'enjeu de la méditation, alors qu'on nous dise de quoi il s'agit, et puis on va le faire. Pourquoi on ne nous a pas dit, pourquoi c'est, qu'est-ce que c'est que pas saisir? Parce que alors moi, je demande que ça, je ne saisis pas, comme ça, c'est tranquille, je suis cool, c'est nirvana, voilà. Mais évidemment, c'est le fait de saisir, c'est quelque chose de complexe, d'abord d'immensément habituel, qui fait partie un peu de notre éducation, mais pas en tant que défaut. On a besoin de cette manière de saisir pour nous structurer. Et puis là, il s'agit de la dépasser. Bah, cette manière de saisir, on va revenir là-dessus, eh bien, nous aide ou nous a aidé, et puis on l'a finalement pris pour la réalité, alors que c'est une structure. Là, il s'agit de la dépasser pour se rendre compte qu'elle est pas, elle rend pas compte de la réalité. Donc de ne pas saisir, ça veut dire être dans le flot des expériences qui surgissent à chaque instant. On ne peut pas arrêter le flot. Ce n'est pas possible. Ces expériences d'audition, même l'audition évidemment, c'est quelque chose qui surgit d'instant en instant. Même la vision change d'instant en instant. D'abord on cligne des yeux par exemple, bien, on voit bien que c'est un processus discontinu. Donc tout change au niveau évidemment de la matière, on sait très bien, les atomes, etc. Ça, tout change, nous-mêmes aussi nous changeons. Mais en général, nous essayons d'arrêter le flot et la manière dont nous voulons arrêter le flot, c'est en saisissant. On veut saisir des choses qui ne bougeraient pas pour, je sais pas, se rassurer ou pouvoir se raccrocher à quelque chose. On voudrait quelque chose de stable. Quelque chose à quoi s'en remettre. Et pour la tradition bouddhique, ça, c'est le fondement de l'ignorance. C'est justement croire qu'on peut arrêter le flot, qu'on peut saisir quelque chose qui ne changerait pas et s'en remettre à ceci. Toutes les traditions philosophiques, religieuses, etc., cherchent à trouver un principe unique derrière les apparences, un principe qui ne change pas. Tout le monde cherche ceci. On voit bien dans la tradition des indiennes, tout est Brahma, qui ne change pas, c'est un absolu. C'est la philosophie grecque aussi, avec la notion du un chez Parménide, des idées qui sont stables, éternelles chez Platon, dans la mystique chrétienne, la même chose. Donc tout le monde veut quelque chose de stable, d'immuable, à quoi on puisse s'en remettre. Pour toutes les traditions, un philosophe grec qui pourra se placer à l'extérieur, mais pour toutes les traditions, le monde qui change d'instant en instant, il n'est pas digne de confiance. Ce n'est pas un monde intéressant parce qu'on peut pas s'y fier, parce que tout change d'instant en instant. Donc le monde des apparences, ce n'est pas un monde intéressant, ce n'est pas un monde réel. Donc on va chercher à trouver quelque chose derrière ceci. Et le bouddhisme prend le contre-pied, oui, dans la mesure où il est dans une pensée indienne, elle dit non, ce qui est la réalité, c'est ce fait que tout change d'instant en instant. Et quand les autres partisans de quelque chose d'immuable disent on ne peut pas faire confiance à ce monde qui change d'instant en instant, les bouddhistes disent oui, vous avez raison, mais le problème, c'est pas parce que le monde change d'instant en instant, c'est que vous voulez trouver quelque chose en quoi vous aurez confiance qui serait stable. Là est le problème. Mais si vous assumez le fait que ce monde change d'instant en instant, on pourrait dire vous dansez avec, alors là vous vous rendrez compte que c'est une liberté. Alors que de vouloir constamment chercher quelque chose de stable où il n'y a rien de stable, ou alors il faut l'imaginer, le créer, ou se mettre à distance pour essayer de trouver quelque chose de stable. Ça, c'est frustrant. Ça, c'est l'origine de la souffrance. Non pas le fait que les choses changent. Or, on se rend bien compte dans nos expériences que constamment, nous essayons de saisir quelque chose qui ne changerait pas. C'est ce que nous apprenons quand nous sommes enfants, à nommer les choses. On nomme, et le fait de nommer, ben, ça fixe quelque chose. Donc, le fait de croire en, de vouloir trouver quelque chose d'immuable derrière ce monde changeant, c'est un refus du monde dans lequel nous vivons. Alors on voit bien, dans certaines traditions, tout ira mieux après, parce que après, tous les problèmes seront résolus, etc. Donc, ce monde-là, ce n'est pas un monde intéressant. Donc, il faudrait un autre monde, un monde derrière ou un monde après. Donc, refus du monde dans lequel nous vivons, et d'une certaine manière, le bouddhiste, à l'inverse, accepte complètement d'assumer la condition humaine en se rendant compte que la liberté ne vient pas du fait de vouloir se tenir à distance, de s'en extraire, mais au contraire, la liberté vient de la manière dont on peut être complètement en phase avec ce monde qui change. Donc rester fidèle à la terre, au monde changeant. Donc cet aspect-là du monde changeant, c'est, on parlera des trois caractéristiques, ben c'est la deuxième caractéristique, si vous voulez, qui revient constamment dans la tradition bouddhique. Tous les composés sont impermanents. Tout ce qui est composé est impermanent. Et ça, tout le monde serait d'accord. Ce n'est pas une vision spécialement bouddhique. Donc le fait de réaliser ceci et de l'assumer, ça c'est la liberté. C'est pas la contrainte, c'est la liberté. Les grands commentateurs indiens, donc du bouddhisme, vous savez que le bouddhisme a existé en Inde jusqu'au XIIe siècle, et là, évidemment, il y a eu beaucoup de philosophes bouddhistes, d'épistémologues, des gens qui ont vraiment réfléchi sur toutes ces choses-là pour essayer d'approfondir. Aussi, il y avait des discussions avec les autres systèmes, avec les hindous, les jaïns, avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup de gens intelligents qui précisaient, ce qui obligeait évidemment à chacun d'affiner sa pensée. Il ne pouvait pas se contenter d'approximation. Donc ces grands penseurs du bouddhisme indien, eh bien ils ont établi des paires d'équivalence pour montrer dans le fond le monde tel qu'il est structuré et tel qu'on l'imagine aussi. Bien, un des aspects, c'est de diviser le monde entre impermanent et permanent. Il y a ce qui est impermanent et ce qui est permanent. Ce qui est impermanent, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce qui est permanent, c'est uniquement de l'imaginaire. Ce qui est dû simplement au langage. Donc ce qui est permanent, c'est les choses, c'est l'espace, par exemple, une sorte d'espace permanent. C'est juste une manière de parler, si vous voulez. Je vais revenir un peu sur ces divisions. Il y a une autre division qui est entre ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace. De manière intéressante, c'est que ce qui est efficace, évidemment, c'est ce monde du changement. Une chose en amenant une autre qui en amène une autre, et ce qui est inefficace, ce qui ne peut pas produire un effet, ben c'est cet imaginaire, parce qu'on peut très bien s'imaginer un verre d'eau, on ne va pas pouvoir le boire. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, eh bien il est inefficace parce qu'il ne peut pas produire un effet. Ici, on parle d'effet donc spécifique. Un verre d'eau, il ne va pas pouvoir nous abreuver. Donc cette deuxième, il y a encore une division entre ce qui peut être appréhendé par le langage et ce qui ne peut pas être appréhendé par le langage. À quoi on peut avoir accès par le langage et ce qui ne peut pas être atteint par le langage. Alors, ce qui peut être atteint par le langage, c'est le monde permanent, le monde imaginaire. Ce qui ne peut pas être atteint par le langage, c'est ce monde changeant, d'instant en instant. C'est le monde de nos expériences à chaque instant. Elles sont là à chaque instant. On ne peut pas les saisir par le langage, on ne peut pas les exprimer par le langage. Elles sont justement avant le langage. Et une autre division, c'est celle qui va nous intéresser ici, c'est entre phénomène singulier et phénomène universel. On va voir à quoi ça. Phénomène singulier, la définition qui est donnée, c'est ce qui a ses caractéristiques propres, ce qui a ses propres caractéristiques. Alors que les phénomènes généraux, ben c'est ce qui reçoit les caractéristiques de l'extérieur. Si vous voulez ce qui a ses propres caractéristiques, ben c'est l'expérience elle-même. Alors ce qui reçoit des caractéristiques de l'extérieur, c'est seulement ce qui est nommé. Prenons un exemple, parce que. Eh bien, voilà. Si on parle de chien, évidemment, chien n'a pas ses caractéristiques propres. Voilà, c'est un terme qui englobe tellement d'animaux différents. C'est inimaginable. Les chiens, il y a des tout petits, des immenses, il y a des jaunes, il n'y a pas encore de bleus, mais enfin, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc, quand je parle de chien, c'est une généralité, mais évidemment, ça reste. On ne dit pas, il ne faudra pas oublier d'aller nourrir chien. Il faudrait lui apporter à boire. Personne ne va dire non, mais tu as eu trop chaud, quoi. Non. Alors que ce chien particulier devant moi à ce moment-là, bah, il a une couleur particulière, il peut-être qu'il tire la langue et autres. Cette expérience-là, eh bien là, lui, il est singulier. Il ne dépend pas du langage. D'ailleurs, si une personne qui parlerait un tout autre langage voyait ce chien, eh bien elle voit aussi, on a accès au même phénomène ici, et ça ne dépend pas du langage. Parce que cet animal, il a ses caractéristiques propres qui ne dépendent pas simplement de nommer. Or, tout ce monde des concepts du langage, qui est des généralités, lui, on ne peut pas le voir. On ne peut pas en faire l'expérience. On ne peut pas faire l'expérience de chien en général. Est-ce que vous avez jamais vu chien en général? C'est pas possible. Fleur en général? Pas possible. Fleur, il faudra qu'elle ait une dimension, qu'elle soit plus ou moins épanouie, etc., qu'elle soit tournée vers la gauche, vers la droite. Donc, tout le domaine du langage, quel domaine des concepts, qui est aussi ce que nous utilisons pour stabiliser. Dès que surgit une expérience, nous la saisissons par un concept, par un nom qui la stabilise. Somnolence. Voilà, j'ai compris ce qui m'habite, c'est somnolence. Ben, somnolence, c'est ça, ça dure, ça peut durer, mais. Somnolence, d'une manière générale, c'est jamais la qualité en cet instant, comment est-ce que je me sens, comment est l'intensité de cette somnolence en cet instant, comment est-ce que je la vis. Donc tout le monde des concepts, c'est des généralisations qui nous donnent accès à un monde imaginaire, stable, qui ne bouge pas, mais qui n'est pas le monde réel dans lequel nous vivons. C'est un monde d'abstraction. On peut reprendre cette distinction qui était faite, la distinction ou la différence entre la carte et le territoire. On pourrait dire que tout le langage, c'est la carte qui essaie de nous orienter. Et il est important, évidemment. Il ne s'agit pas de croire que le langage serait inutile. Mais si on confond la carte et le territoire, évidemment, là, c'est un petit peu problématique. Donc, dès qu'on est dans une expérience et que tout d'un coup on la saisit au moyen d'un langage, d'une représentation, à ce moment-là, on a quitté le vécu lui-même, le territoire, pour être dans la représentation. Et tout d'un coup, on a quelque chose de stable, de rigide, de figé, et on ne peut plus être dans un processus vivant. Je ne peux pas être dans ma méditation, hein, présent à cette généralisation de somnolence, de douleur, ou d'autres émotions comme tristesse ou inquiétude. Et souvent, nous essayons dans la méditation d'être plus en contact en passant par cette généralité. Et là, on se rend bien compte que c'est difficile. On médite, même si on fait beaucoup d'efforts, on n'arrive pas à être dans quelque chose de vivant. Pourquoi? Parce que cette généralité, c'est un écran. Elle est venue se substituer à l'expérience elle-même. L'exemple de la douleur est évidemment parlant, parce que je peux dire ma douleur dans mon genou, par exemple. Eh bien, si je reste avec ceci, ça voile le vécu lui-même qui est de sensations particulières. sensation, je ne sais pas, de brûlure, de picotement qui change d'instant en instant. Alors si je me dispose à faire l'expérience de ceci, ces sensations d'instant en instant, à ce moment-là, je suis dans un processus vivant. Mais si je reste en essayant de méditer avec ma douleur, je me rends compte que, évidemment, je la sens, bah, c'est une sensation intense, mais je ne suis pas vraiment en contact. Je sens que le processus méditatif ici, pour essayer d'être en contact, il n'est pas vivant. Un processus qui est rigide, qui est figé. Donc ce n'est pas une croisade contre le langage, parce qu'on doit l'utiliser, c'est évident, on l'utilise aussi dans le chemin spirituel, bon, metta, karuna et autres. On a les exercices spirituels qui nous font utiliser le langage comme moyen. Mais là, dans la pratique de Satipatthana, on essaie de découvrir ce qu'il peut y avoir au-delà du langage. Parce que sans ceci, on ne va jamais pouvoir se défaire de cette illusion que donne le langage. Donc le langage, évidemment, utile, aussi dans certains éléments du chemin spirituel, mais l'essentiel de la méditation vipassana, elle vise à dépasser ceci, à découvrir justement l'expérience dans sa singularité. Sa singularité, ça veut dire qu'elle est là unique, en cet instant unique, et que jamais elle est apparue avant, jamais elle n'apparaîtra plus ailleurs, et qu'elle apparaît seulement dans ce contexte-là. Singulier veut dire ceci. Et cette expérience singulière, elle est avant le langage, elle n'amène pas une connaissance. La connaissance, c'est une généralisation. Mais elle amène un vécu. Ce qu'elle amène, c'est la vie. Alors, il faut choisir entre la vie et la connaissance. Donc, l'expérience méditative va justement nous mettre dans la vie avant qu'on veuille immédiatement en faire quelque chose de connu qu'on puisse évidemment saisir, garder avec soi. Donc on a là bien une sorte d'attachement ou de désir fondamental qui est de transformer toute expérience en une représentation qu'on peut garder. C'est comme si notre esprit c'était maintenant un téléphone portable qui prend des photos de chaque expérience. On va se promener, voit une fleur. Alors, on prend une photo, voilà, regarde la fleur que j'ai vue, ben, le langage fait la même chose, regarde, j'ai vu, je parle une pâquerette et autres, mais ben voilà, on l'a gardée. Alors que l'expérience elle-même, cette expérience dans la vision de la fleur, elle est avant le langage. L'expérience, on ne peut pas la garder. Si on pouvait garder l'expérience, alors on pourrait revivre le passé. C'était chouette au bord de la mer, je ne sais pas, il y a 3-4 ans, voilà, je vais revivre ça. Je m'excuserai 5 minutes, moi. Voilà. Mais non, on ne peut pas le revivre. C'est le souvenir, mais le souvenir, la représentation, c'est évidemment par l'expérience. Et on sait bien que le souvenir, alors là je parle de choses agréables, il satisfait jusqu'à un moment donné, mais il n'est pas complètement satisfaisant. On se rend bien compte que ce n'est pas la même chose. Ou l'anticipation, je prends les vacances pour être simple, anticipation des prochaines vacances au bord de la mer. Vous avez vu, j'adore la mer, mais enfin. Voilà, anticipation des prochaines vacances au bord de la mer, ben, ça ne me satisfait pas complètement. Ça va un petit moment, mais bon, ok, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec l'expérience elle-même. Donc le fait d'être constamment dans le langage, dans ces généralisations, ça veut dire qu'on se tient constamment à une distance du vécu lui-même. D'où il y a quelque chose, un sentiment qu'il y a quelque chose de superficiel. Par moment, évidemment, on touche quelque chose de plus profond, une émotion, etc. Il peut y avoir des choses, heureusement que ça arrive. Mais d'une manière générale, cet attachement au langage fait qu'on reste dans ce monde de la carte, à une distance, dans le fond, des vécus eux-mêmes, de la vie elle-même. Et ce que nous dit la tradition bouddhique, c'est que cette distance, c'est ça qui fait la douleur. Le fait de vouloir s'accrocher à quelque chose qui serait stable, c'est ça la confusion qui fait que finalement, puisqu'on est à côté de la vie, c'est jamais satisfaisant. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement l'aspect philosophique ou épistémologique, c'est l'aspect pratique. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma pratique méditative? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas saisir dans ma pratique méditative, de rester dans l'expérience singulière? Ça veut dire m'intéresser à la richesse de ce qui se passe dans l'instant, non pas vouloir éliminer le langage. Ça sert à rien, mais c'est être disponible, être plus à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Je pourrais prendre l'exemple de l'audition d'un son. Alors, la généralisation, ça serait de dire, tiens, voilà, c'est une moto qui passe, un oiseau qui chante, mais voilà, on a compris. Et ça, vous voyez, un oiseau qui chante, ça dure, ça ne disparaît pas. Un oiseau qui chante, l'oiseau, lui, il a disparu, mais un oiseau qui chante, cette expression-là, dans la méditation, j'ai entendu un oiseau qui chante. Donc là, on a quitté l'expérience elle-même qui est cette richesse auditive dans toute ce qui justement ne peut pas être décrit par des mots. On ne peut pas décrire par des mots la richesse de l'expérience, visuelle ou autre. Donc, dans la méditation, je vais revenir. Alors, d'accord, peut-être que le mot vient, l'oiseau qui chante ou la moto qui passe, et puis je vais m'intéresser, dans le fond, à l'expérience auditive. Mais c'est quoi cette expérience-là? Alors, tout d'un coup, il y a cette richesse du bruit d'une moto, c'est immensément, immensément. Je reviens à l'expérience elle-même sans essayer de la saisir, de l'arrêter. Je reste avec ce changement dans cette expérience-là. Même chose pour les expériences ou sensations corporelles. Donc, il ne s'agit pas pour nous de nous battre contre le langage, mais pas de croire que ça suffit. Je pense que souvent dans la méditation, on stagne parce qu'on pense que de reconnaître, ça suffit. Ben voilà, j'ai du désir, ben j'ai reconnu, puis alors, bon, j'ai du désir, j'ai de la colère, j'ai de l'aversion. Je ne vois pas où est le gain. Hein. Je médite, ben j'ai de l'aversion, j'ai de la somnolence. Ben j'ai reconnu, hein, j'ai fait mon boulot. Hein. Quand un méditant, une méditante a l'esprit troublé par la somnolence, il sait, elle sait. Voilà, j'ai fait mon boulot. Ah ben, je ne vois pas où est le gain. Il se passe rien. Donc, ce n'est pas simplement le fait de nommer, ah, c'est de la somnolence, c'est le fait de l'éprouver pleinement. Comment c'est qu'un esprit somnolent? Comment c'est qu'un esprit frustré? Donc, de revenir constamment s'intéresser à l'expérience elle-même. Est-ce qu'on va découvrir, parle d'expérience, ici je parle de somnolence, de frustration et autres, ou d'audition, ce qu'on va éprouver dans cette expérience-là, c'est la vie elle-même avant cette construction. Ce qui est révélé dans ceci, c'est notre propre manière d'être. C'est nous-mêmes que nous allons découvrir dans ceci, dans cette intimité. Dans ces expériences-là, on se rend compte que c'est une rencontre totale avec soi-même. On voit bien la différence avec cette manière de nommer qui est de s'accrocher à des choses, mais qui nous coupe de nous-mêmes. Ça revient, si vous voulez, au troisième niveau que j'ai décrit l'autre jour, c'est au niveau d'être dans l'intimité de l'expérience. On n'est plus dans l'observation, on est dans l'intimité de l'expérience. C'est quand l'expérience repose sur l'expérience. Il n'y a pas une expérience et puis si un méditant et une méditante, il faut essayer de les mettre les deux l'un dans l'autre. Comme ça, on va mettre un peu le méditant, la méditante dans l'expérience. Il n'y a pas une expérience, un méditant ou une méditante, il y a une expérience. Il n'y a que l'expérience. Il y a l'audition, il y a la vision, il y a la somnolence, etc. Donc ce n'est pas en voulant éliminer le langage qu'on va s'approcher de ceci. C'est cette curiosité qui fait qu'on va explorer qu'est-ce que c'est que dans le fond cette somnolence ou cette inquiétude ou cette joie, cette tranquillité. De la même manière, on peut aussi avoir de la confusion par rapport à la joie, à la tranquillité. Si on la saisit, voilà. Je médite, il y a beaucoup de joie ou de tranquillité. Si je saisis ceci, ce calme, cette tranquillité, par le langage, eh bien, ça va être quelque chose qui est stable. Et je vais enlever la vie dans cette expérience-là. Ça va rester quelque chose de plaisant, mais qui reste quelque chose de figé. Donc cette attitude d'intimité, elle n'est pas seulement vis-à-vis des expériences difficiles, mais toute expérience. Donc quand l'expérience repose sur l'expérience, il n'y a ni sujet ni objet, dont j'ai parlé l'autre jour pour parler du troisième niveau. Mais il n'y a pas rien, il y a l'expérience, les expériences qui surgissent d'instant en instant. Et dans ces expériences qui surgissent d'instant en instant, jamais rien ne manque. On ne va pas demander à ce moment-là, on ne va pas dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas demander qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est évident. Même si les explications peuvent sembler abstraites et compliquées, l'attitude est simple. L'attitude est simple. Ça ne veut pas dire facile, parce qu'on a beaucoup d'habitudes, mais on n'a pas besoin d'avoir un savoir-faire compliqué. Simplement essayer de tomber un peu, laisser tomber ces manières habituelles de se relier aux expériences en voulant les saisir ou les nommer, pour essayer de découvrir ce qu'il y a avant le fait de nommer dans l'intimité de l'expérience, cette curiosité. C'est bien que le facteur d'investigation dans la méditation qui joue un rôle, calme, tranquillité, etc. Et puis aussi l'investigation. L'investigation, c'est cette curiosité qui permet de ne pas s'accrocher au langage pour laisser l'expérience révéler ce qu'elle est. Et on peut dire que c'est ce qui amène à réaliser que rien n'est stable. On ne peut rien garder. Mais aussi, à ce moment-là, qu'il n'y a pas de je ou de moi. Le je et le moi, c'est aussi une généralité. Dans l'instant, quand on est dans l'instant, la méditation, dans l'instant présent, il n'y a pas de je ou de moi. Il n'a pas le temps d'exister. Le je et le moi existent nécessairement dans la durée. On se rend bien compte, si je parle de je et de moi, vous pouvez aussi dire je, moi à votre propos, eh bien, on a l'impression que ça dure depuis un certain temps quand même. Ça fait quelques années que c'est là. Mais c'est absurde parce que moi, j'existe qu'à cet instant-là. J'existe plus hier, j'existerai pas encore demain. J'existe à cet instant-là. Mais ce je et ce moi, lui, c'est comme le mot chien qui peut accueillir tellement d'animaux différents. Ce je et ce moi peut accueillir tellement d'expériences différentes, tellement moments différents, des aspects de moi-même différents. Ça peut accueillir quand j'avais 5 ans. Et je vous promets que j'étais différent. Quelque chose a changé. Mais pourtant, il y a ce terme généralité qui est utile, mais quand je crois que c'est une réalité, alors il vient cacher la manière dont ce je ou ce moi se manifeste en cet instant. Ce qui prédomine tout d'un coup, c'est cette synthèse, ce terme de synthèse, auquel je donne une réalité et je m'enferme dans cette réalité que je donne à ce moi-je. Tristesse ou somnolence, je prends des choses comme ceci, eh bien, je suis triste. Ce je qui est triste, c'est ce je qui existe depuis tellement d'années. Il est triste tout d'un coup. Ce je, il n'a pas de caractéristique lui, mais tout d'un coup, bam, il y a la tristesse qui lui tombe dessus ou la somnolence. Ce je avant ou après n'existe pas, il y a juste cette expérience-là. Et ce n'est pas parce que tout d'un coup on enlève le je, on va partir en guerre contre lui. Non, on se demande, tiens, qu'est-ce qui se passe dans cet instant? Puis on se rend compte, dans cet instant, rien ne manque, même s'il n'y a pas la notion de je. Il y a la plénitude de l'expérience-là, d'audition ou même de tristesse. Mais s'il y a je, moi, à ce moment-là, eh bien, ce concept va voiler l'expérience. Et je ne peux plus être dans la réalité de la vie à chaque instant. Mais c'est comme si cette notion je et moi voulait sécuriser quelque chose. Mais en fait, elle ne sécurise pas du tout les vécus. Elle sécurise que le je et le moi qui est une chose abstraite. Et on lui donne toute l'importance. C'est quand même une farce. Toute l'importance est donnée à quelque chose qui n'existe pas, qui est juste une représentation, un terme générique, et qui voile ce qui existe à chaque instant. Donc on n'a pas besoin de partir en guerre, de, je veux pas le moi, etc. Je voudrais bien l'expérience en moi. Simplement en s'intéressant à l'expérience présente, une expérience qui n'a ni avant ni après, quand on reste dans ceci, alors on peut découvrir la richesse de l'expérience. Sans représentation. Là, on se rend compte de ce que veut dire liberté dans le sens de la tradition bouddhique. Donc, on n'a pas à lutter contre le langage, ni contre le moi, ni le je, mais c'est s'intéresser aux expériences dans leur singularité, dans l'instant. On revient à Mahasi Sayadaw, il dit bien, sur quoi méditons-nous? Sur ce qui surgit dans l'instant. Juste ça, il parle à un autre endroit, il parle d'expériences empiriques, qui veut justement dire ces expériences singulières, qui ne peuvent pas être atteintes par le langage. Voilà, donc pour revenir, on décrit toujours les mêmes choses. On essaye, je crois, Patricia, Monica et moi-même, de rendre compte de cette attitude qui nous permet de découvrir cette manière d'être en vie de manière libre, même si dans ce cheminement, nous rencontrons nos habitudes. Ce qui est tout à fait normal. Ces habitudes qu'il ne s'agira pas de nier complètement, mais on aimerait bien que ce soit pas le. Qu'on ne soit pas limité à ceci, mais qu'on puisse découvrir aussi une autre manière de voir le monde, et qui est une manière beaucoup plus libre.